France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 sur le terrain consacré à la voiture.
Ici, vous êtes dans le berceau de la 3008 et de la 5008 qui fait toute la fierté de Sochaux et de tout le pays de Montbéliard.
Nous sommes en direct de l'usine Peugeot Stellantis à Sochaux dans le Doubs. 114 ans d'histoire, 5400 salariés, 1050 voitures sortent d'ici chaque jour. Une seule et même ligne de montage, mais des modèles de tout type, électrique, essence, hybride, car le secteur est dans le flou.
Avec la concurrence chinoise, les normes européennes, ça met pas mal de bâtons dans les roues à l'industrie française.
On attend la suite, mais on est tous inquiets. Ouais.
Les ventes de véhicules neufs en France ont encore baissé l'an dernier dans ce contexte. Comment réussir le passage à l'électrique vers des véhicules moins polluants ? L'automobile entre dans une nouvelle ère.
Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est aussi fort que l'invention de la roue à l'époque ou que l'ère industrielle. Le monde est en train de vivre ses plus grandes révolutions.
Comment négocier cette révolution ? Nous verrons cela ici en direct avec nos invités et nos reportages. Sans oublier toute l'actualité de ce vendredi avec vous. Bonjour Amélie Perrier.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À commencer par le Premier ministre Sébastien Lecornu qui conserve son fauteuil.
Deux motions de censure rejetées à l'Assemblée ce matin. Sébastien Lecornu sauve sa tête, effectivement, mais le Premier ministre doit compter aujourd'hui sur lui-même et pas grand monde autour de lui. Deux enquêtes ouvertes en France après la mort de bébés ayant bu des laits faisant l'objet d'un rappel. Les parents s'interrogent, surtout que l'on manque aujourd'hui de laboratoires pour repérer la substance toxique mise en cause ici. Ce sont les révélations de notre cellule investigation. Des négociations inédites pour l'Ukraine, russes, ukrainiens et américains réunis à Abu Dhabi, les trois ensemble. Est-ce déjà un progrès ? On le demandera à notre correspondant à Moscou. Et Sydney, c'est fini pour tous les Français engagés dans l'Open d'Australie. Le tennis tricolore en très petite forme.
Et puis juste avant 14h, ici au pays de la voiture, nous ferons un clin d'œil à tous ceux qui, en plein mois de janvier, se déplacent encore à vélo. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ce 13-14 débute au plus près de la ligne de production de cette usine Stellantis de Sochaux, ligne longue de 1200 mètres, 13h02. C'est l'équipe de l'après-midi qui vient de prendre le relais. Bonjour Hamid.
Bonjour.
Vous en faites partie de cette équipe de l'après-midi aujourd'hui.
Oui.
Vous êtes opérateur. En quoi consiste votre tâche ? Là, on est à quelques mètres des caisses qui ne sont pas encore tout à fait des voitures. Qu'est-ce que vous faites ?
En fait, je fais le manipulateur. Je fais la planche bord, je prends avec le manipulateur et je mets dans la voiture.
Le manipulateur, c'est une machine, c'est un bras, dessus il y a la planche de bord. Et vous, vous vous assurez qu'elle soit bien mise en place à l'intérieur ?
Oui.
Il y a d'autres tâches que vous effectuez, que vous savez effectuer sur cette ligne de production ?
Oui, je fais d'autres postes. Il y a épinglage du frein, il y a branchement des connecteurs et voilà.
Quel âge vous avez, Hamid ? Quel âge est-ce que vous avez ?
J'ai 22 ans.
22 ans, vous venez de Syrie, je crois.
Oui.
Et vous êtes arrivé en France en 2018, diplômé ici ?
Oui, je suis diplômé au Germaine Sion.
Au lycée Germaine Sion. Et ensuite, vous avez trouvé un travail tout de suite ?
Oui, j'ai passé mon bac pro au lycée Germaine Sion. Et en 2023, au mois d'octobre, je suis passé ici.
Et vous êtes en CDI avec votre entreprise d'intérim et intérimaire ici au sein de Stellantis. Qu'est-ce que vous pensez de ces véhicules ?
Amine. Franchement, magnifique, génial.
Vous en avez déjà conduit ?
J'ai conduit les anciens modèles.
Mais pas ceux-là ?
Pas ceux-là.
Vous aimeriez ?
Je préfère.
Vous aimeriez ?
Ouais. Ouais.
Peut-être dans quelques années. Merci Hamid.
J'espère.
On vous laisse prendre votre... Vous travaillez jusqu'à quelle heure ?
Je travaille jusqu'à 19h55 aujourd'hui, c'est vendredi.
19h55, c'est vendredi. Merci Hamid d'avoir pris quelques minutes avec nous pour parler de votre travail. Bonjour Manuel Gentil.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du site de Peugeot Stellantis ici à Sochaux. Oui, il y a équipe du matin, équipe de l'après-midi, équipe de nuit.
On travaille sur les 24 heures de la journée et on se relaie sur trois équipes effectivement. Ouais.
Les véhicules défilent devant nous, 6 mètres par minute, ça veut dire qu'on travaille en même temps que la chaîne de production avance. Particularité ici, vous pouvez produire des véhicules de tout type en même temps.
Oui, exactement. On a conçu un outil industriel qui est capable de s'adapter complètement à la demande commerciale. Donc on fabrique aussi bien des véhicules thermiques, des véhicules hybrides, des hybrides rechargeables et des véhicules 100% électriques.
C'est pour ça qu'il y a des véhicules qui ont par exemple une couleur différente. Ils sont déjà achetés, on les a déjà commandés, ces véhicules ?
Oui, alors ces véhicules ont un client. La couleur n'est pas liée à la motorisation,
hein,
c'est vraiment les options qui sont choisies
par
le client.
Mais le véhicule qui est en face de nous est noir, donc ça le client a dit voilà je veux cette couleur.
Exactement.
Et vous lui faites vraiment ce qu'il a demandé.
Sur les 1050 voitures qu'on fabrique tous les jours ici à Sochaux, il n'y en a pas une qui est identique. Ah, donc On s'adapte vraiment aux besoins du client, aux options qu'il a choisies et à la diversité qu'il souhaite.
On voit que les pièces, elles sont juste de l'autre côté là, des voitures. Vos salariés les prennent et puis ensuite les mettent dans les véhicules. S'il manque une de ces pièces, Manuel Gentil, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, généralement, il manque pas de pièces.
Oui.
On est organisé pour que tout arrive juste à temps. Mais il y a effectivement, on assemble 1 million de pièces par jour.
Un million de pièces.
Vous voyez un peu l'expertise qu'il faut pour pouvoir avoir que toutes ces pièces arrivent au bon moment sur la voiture. Si jamais il y a une pièce qui est manquante, on va se dépanner assez rapidement, généralement. Il peut exceptionnellement que la pièce soit montée un petit peu plus loin sur la voiture.
Thermique, hybride, c'est l'essentiel de la production.
Ouais.
Et puis de l'électrique. Quelle est la voiture qui coûte le plus cher à fabriquer ?
Alors, la voiture clairement qui coûte le plus cher, ce sont les véhicules 100% électriques. C'est la chaîne de traction de batterie aujourd'hui qui nous coûte beaucoup plus cher.
La chaîne de traction de batterie.
Ouais. Ouais.
Il faudra travailler pour faire baisser ce coût. C'est peut-être l'enjeu.
Oui, ouais. Oui. On y travaille notamment en intégrant les fabrications en France. Hein.
À quel rythme ? Ça, c'est une question. La bascule vers l'électrique, on va en parler ensemble dans quelques minutes. C'est l'un des enjeux du moment. Personne ne le sait encore vraiment. Les règles changent. Il faut s'adapter. C'est ce qu'on va vous expliquer ici en direct de Sochaux avec nos invités. Et nos reportages dans une quinzaine de minutes. Avant cela, toute l'actualité de ce vendredi. Amélie Perrier, on vous retrouve. Et donc, le Premier ministre Sébastien Lecornu qui échappe ce matin à la censure.
Oui, Sébastien Lecornu échappe à 2 motions de censure portées ce matin par le Rassemblement national et par la gauche. Réponse au 49-3 invoqué par le Premier ministre pour faire adopter le budget de l'année. Contrairement à sa promesse d'octobre dernier, il a fini par engager la responsabilité de son gouvernement. Et l'on rejoint à l'Assemblée nationale Marie Mollet et Marine Clet. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Marine, d'abord, racontez-nous cette séance. Les 2 motions de censure ont été rejetées sans grande surprise.
Oui, très peu de suspense. Hein, des députés absents, un hémicycle désertique. Seule une quinzaine de parlementaires. Les ministres étaient ce matin plus nombreux que les élus de la majorité, c'est pour dire. Aucun ténor. Gabriel Attal, Laurent Wauquiez ont laissé leur chaise vide. Marine Le Pen, elle, était présente après son audience devant le tribunal en début de semaine. Elle est montée à la tribune tout à l'heure pour défendre sa motion de censure.
À tous les problèmes de la France que vos amis ont créés et que vous laissez filer, vous ajoutez un problème institutionnel et même démocratique. Votre projet, je n'ose pas appeler ça un budget, est un Tchernobyl budgétaire. Une chape de béton sous laquelle vous avez tenté de cacher des éléments hautement radioactifs.
Autre motion rejetée aujourd'hui, la deuxième, celle des Insoumis. 269 voix pour contre les 288 nécessaires. Alors il y a eu quelques dissidents dans les rangs de Liotte et socialistes notamment. De quoi donner espoir à Éric Coquerel, le porteur du texte insoumis pour les prochaines motions envisagées.
Plusieurs voix se sont portées sur la motion de censure. C'est un enseignement. Cela nous incite à, pour les suivantes, à mettre encore plus la pression sur toutes les députés d'opposition afin qu'ils censurent ce gouvernement. Et dès lors qu'on est seulement à 19 d'écart, le gouvernement Lecornu peut tomber.
Faire tomber le gouvernement, dit-il, mais ça, ce ne sera donc pas pour aujourd'hui.
Merci Marine. Mais au-delà du résultat ce matin, est-ce vraiment une victoire pour Sébastien Lecornu ? Certes, le Premier ministre a réussi à faire adopter un budget, mais il n'est pas renversé aujourd'hui. Marie Mollet, dites-nous comment il s'est défendu ?
Il y a d'abord cet argument, ce 49-3 qui n'a pas dégainé de gaieté de cœur, dit-il en substance, mais vous, Parlement, ne m'avez pas laissé le choix.
Quand le débat ne permet plus de conclure, quelqu'un doit assumer. L'engagement de la responsabilité du gouvernement ne doit être, selon moi, ni une facilité, ni un raccourci. Il est un instrument de dernier recours, pour ne pas dire de dernier secours.
Et puis cette concession, ce texte est inconfortable, dit-il pour certains, mais c'est un texte de compromis.
La gauche dira que c'est un budget de droite. La droite dira que c'est un budget de gauche, parce qu'il n'est le texte de personne. Ou plutôt parce qu'il est un peu le texte de tout le monde.
Inconfortable en effet, c'est peu dire. D'abord pour son propre camp, même Gabriel Attal n'était pas dans l'hémicycle pour le soutenir ce matin. Les flèches les plus dures sont venues aussi de ses propres rangs. La députée Horizon, Agnès Firmin-Lebaudeau par exemple, porte-voix d'Édouard Philippe, qui dénonce des bombes fiscales à retardement et affirme qu'il n'y aura plus aucune réforme avant 2027. Le Premier ministre qui ce matin encore a choisi de faire profil bas, le gouvernement a fait ce qu'il a pu, dit-il, humilité surlignée, devenue marque de fabrique du style Lecornu, avec laquelle il espère tenir. dire « j'ai un peu la gueule de la dernière chance », comme il le dit lui-même en privé.
Marie Mollet, Marine Clette, le service politique de France Inter en direct de l'Assemblée nationale grâce aux moyens techniques de Benjamin Reyes. Merci à vous trois. Et ce n'est pas terminé pour Sébastien Lecornu. Il engage sa responsabilité par un deuxième 49-3 pour la partie dépenses du budget. Il y en aura ensuite un troisième pour le vote général. Les politiques côté tribunal, on connaît les dates du procès en appel de l'ancien maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Il comparaîtra du 8 au 12 juin devant la cour d'appel de Lyon. En première instance, il a été condamné à 4 ans de prison ferme pour chantage à la vidéo intime. Il est aujourd'hui incarcéré à la prison de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. La France a bientôt un budget, mais les Français sont confrontés à une mauvaise nouvelle pour leurs finances. Le prix du gaz a bondi de 40% en seulement 2 semaines. Il a atteint un niveau inédit depuis la crise énergétique de 2022. Le mégawattheure est passé de 30 à presque 40 euros. En cause, notamment, une tempête hivernale attendue aux États-Unis, des températures polaires jusqu'à moins 46 degrés. Mais pas seulement, nous dit l'expert Sébastien Zimmer du cabinet SIA, la hausse des prix a débuté avant.
Le mouvement de hausse est lié principalement à la vague de froid en Europe. Les stockages de gaz aujourd'hui sont moins remplis qu'ils ne l'étaient l'année précédente à la même période. Donc ils sont remplis à peu près à 48%, alors qu'ils étaient à 58% l'année dernière à la même année. On a aussi des effets de mouvement des acteurs sur la bourse qui ont pu acheter en quantité importante dans un temps resserré du gaz sur les marchés de rose, qui a pu conduire aussi à cette hausse. Et ce qu'on peut dire également, c'est que cette hausse semble assez conjoncturelle, puisqu'elle est liée à des aléas climatiques. Mais si on se projette, on a une offre de GNL mondiale qui va augmenter assez considérablement dans les prochains mois, les prochaines années, ce qui devrait plutôt conduire à une baisse structurelle des prix du gaz.
Sébastien Zimmer, associé du cabinet SIA, il répondait à Mathilde Leroy. Les bébés ne peuvent pas s'en passer, leur biberon de lait, mais quand les alertes et les rapports appel de boîtes se multiplie, avec quoi les nourrir? Tous les lots concernés ont été retirés, assure ce matin la ministre de la Santé. Deux enquêtes sont ouvertes en France, après la mort de deux nourrissons ayant bu ces laits infantiles. Simon Le Baron, vous êtes allé à la pharmacie ce matin où Louisa, une préparatrice en pharmacie, doit avant tout rassurer les parents.
Sur les retours de lots quand elles regardent à la télé, oui, bien sûr, parce qu'elles sont, elles sont inquiètes. Elles sont inquiètes pour leur bébé. Elles me disent « Est-ce que vous pouvez me dire si le lait que vous m'avez vendu fait partie de la liste des retraits ?» Je lui dis « Ramenez-moi la boîte et on vérifie. Ici, il y a le numéro de lot, le numéro de la date de péremption. Et si ça correspond, je lui fais soit un échange, soit un remboursement. » On regarde en machine ce qu'on a vendu. Si on arrive à avoir le numéro de téléphone de la patiente, de la cliente, on rappelle la patiente. Et on lui dit de revenir avec la boîte. Et bien sûr, on la rassure si jamais elle a donné du lait à son bébé. Bien sûr, les mamans sont toujours inquiètes pour leur bébé.
Et c'est toujours les mamans?
Oui, c'est que des femmes. Les papas, je ne les vois pas. Voilà, où sont les hommes?
Voilà,
à bon entendeur.
Ah bah oui, le message de Louisa, préparatrice d'une pharmacie du 15e arrondissement de Paris, au micro de Simon Le Baron. Et bonjour Marie Dupin.
Bonjour.
De notre cellule investigation, vous êtes à l'origine de révélations sur ces laits infantiles, notamment le manque de transparence des autorités, le manque de moyens pour repérer les toxines ou bactéries dans ces laits pourtant destinés aux plus fragiles.
Oui, et cela fait pourtant des années que les scientifiques alertent sur la dangerosité potentielle de cette toxine. Or, selon nos informations, il n'existe en France aucun centre national de référence, aucun laboratoire accrédité capable de détecter la présence de cette toxine dans les selles d'enfants tombés malades ou décédés. Écoutez le témoignage de Manon. Sa fille de 4 mois est tombée malade cette semaine après avoir consommé un pot de lait de la marque Picot.
Elle a commencé à beaucoup vomir, des vomissements qui n'étaient pas du tout habituels. Le médecin n'a même pas pu l'examiner tellement elle était douloureuse et nous a demandé avec un papier de nous rendre du coup aux urgences. Une pédiatre nous a donc dit que ça venait sans doute du lait puisqu'il n'y avait pas de virus sur les selles.
Problème pour cette mère comme pour tous les autres parents concernés, impossible d'obtenir des analyses permettant de rechercher la toxine suspectée dans cette affaire.
On nous a expliqué que la toxine dans les selles de notre enfant n'était pas possible, on ne pouvait pas la trouver. J'ai demandé à avoir les résultats de ma fille et on m'a clairement certifié que je ne les aurais pas. Donc même ça, c'est clairement aberrant. Vous voyez, on se sent clairement abandonné.
Contacté par la cellule investigation de Radio France, le ministère de la Santé confirme qu'à ce jour, il n'est pas possible en France de détecter détecter directement la toxine céréulide dans les prélèvements biologiques.
Marie Dupin de la cellule investigation de Radio France. Est-ce la bonne ? Aujourd'hui, une nouvelle réunion se tient pour tenter de mettre un terme à cette guerre, la guerre en Ukraine. Encore une réunion, mais pour la toute première fois depuis 2022, Ukrainiens, Russes et Américains se retrouvent pour discuter ensemble. La réunion trilatérale se tient à Abu Dhabi. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Amélie.
Vous êtes notre correspondant en Russie. La présence des deux belligérants et des États-Unis et le profil des négociateurs ressemble déjà à une avancée.
Oui, c'est particulièrement vrai du côté de Moscou, hein, où la délégation, cette fois-ci, sera 100% militaire, pas comme lors des négociations d'Istanbul en juillet, où elle était menée par un idéologue, Vladimir Medinsky. Cette fois-ci, c'est le chef du GRU, le renseignement militaire, Igor Kostyukov, qui sera le négociateur en chef, côté russe, côté ukrainien, délégation de haut niveau également, où l'on retrouvera notamment l'ancien ministre de la Défense, Roustem Oumerov, des militaires, donc, pour aborder la question épineuse et technique des territoires. Le dernier point bloquant, à en croire les différents protagonistes, mais pas le moindre. Moscou exige que les troupes ukrainiennes se retirent du Donbass, c'est-à-dire y compris des parties des régions de Donetsk et Lugansk que la Russie ne contrôle pas. Sans cela, la guerre continuera, a prévenu ce matin le Kremlin. Ceci dit, Moscou a, ces derniers mois, aussi posé de nombreuses autres exigences sur la table, concernant notamment la taille de l'armée ukrainienne ou la reconnaissance des territoires conquis. Rien ne dit donc que d'autres points de blocage peuvent subsister, mais le dialogue semble enclenché sous l'égide des États-Unis. Jamais encore les deux camps ne s'étaient réunis dans un tel contexte.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, merci à vous. Les Américains de nouveau menaçant avec l'Iran, Donald Trump affirme qu'une armada navale est en route pour le Golfe, histoire de maintenir la pression sur Téhéran. Le président avait pourtant écarté la possibilité d'une intervention militaire après avoir assuré que le régime des Mollahs renonçait à exécuter des manifestants du mouvement de contestation en cours en Iran. L'administration Trump et sa police de l'immigration sous le feu des critiques aux États-Unis. Le vice-président J.D. Vance confirme qu'un petit garçon de 5 ans est détenu par l'ICE à Minneapolis. La police anti-immigrée mène là-bas des opérations massives contre les étrangers depuis plusieurs semaines. La mort d'une Américaine tuée par l'un de ses agents au début du mois a mis le feu à la ville. Les États-Unis, où l'on va pouvoir continuer de passer des heures sur TikTok, le réseau social au cœur d'un bras de fer entre Washington et Pékin. Bras de fer emporté par Donald Trump qui voulait que la maison mère chinoise vende l'appli à des investisseurs américains. TikTok annonce aujourd'hui la création d'une co-entreprise majoritairement détenue par des fonds US. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Pékin pour France Inter. TikTok évite son interdiction aux États-Unis mais cède aux conditions de la Maison Blanche.
Oui, l'administration américaine a obtenu ce qu'elle souhaitait, à savoir une séparation physique entre d'un côté les serveurs de TikTok en Chine et de l'autre les 200 millions d'utilisateurs américains. Les États-Unis redoutaient une fuite des données personnelles susceptibles d'être détournées par les autorités chinoises. Alors la maison mère de TikTok, ici à Pékin, ByteDance, a donc accédé à cette demande. La nouvelle entité qui va gérer les activités de TikTok aux États-Unis sera majoritairement américaine. Seulement moins de 20% pour la partie chinoise. C'est une perte de souveraineté évidente pour ByteDance, qui ne sera plus maître de son algorithme, avec aussi un risque que les utilisateurs américains perturbés par le changement, s'éloigne de TikTok, car en effet l'application aura un nouveau visage avec une nouvelle présentation des contenus différente du TikTok mondial.
Sébastien Berriot, le correspondant de France Inter en Chine. En Australie, cela ressemble à une sévère déroute pour le tennis français. Tous les représentants tricolores ont été évincés du tournoi du Grand Chelem. Corentin Moutet n'a pu que s'incliner face au numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour Amélie.
Cet Open d'Australie, c'est une contre-performance pour le tennis français qui n'est plus au niveau. C'est un problème factuel, mais pas seulement.
En fait, la France du tennis vit un paradoxe. Il y a 12 joueurs dans le top 100 mondial. La France est le pays le mieux représenté à ce niveau, juste derrière les États-Unis. Mais aucun Français dans le top 20 mondial. Et chez les dames, c'est pire. 3 Françaises dans le top 100, aucune parmi les 35 meilleures du monde. Du coup, pas de miracle. Les Français mal classés s'exposent à tomber très vite sur des têtes de série ou des joueurs mieux classés qu'eux. Et ça peut venir rapidement, dès le premier tour ou le deuxième, mais à coup sûr, dès le troisième. Et c'est ce qui s'est passé à Melbourne. Mais le problème de fond, c'est que la Fédération française ne fabrique plus de de champions comme autrefois. La France a longtemps été un modèle de formation reconnu dans le monde entier et copié par l'Italie, l'Australie et les États-Unis. Mais ces pays-là ont amélioré le système en l'adaptant aux exigences du tennis actuel. La France n'a pas su le faire ni se renouveler, se contentant de se reposer sur la génération des Tsonga, Gasquet, Simon et Monfils. Personne n'a su assurer la relève, anticiper ce qui pouvait se passer après. La détection et la formation ont été négligées et la France en paye aujourd'hui les conséquences.
Notre spécialiste tennis à France Inter, merci Fabrice Abgras. Lui était le doyen des hommes français. Maurice Le Coutour est mort, il avait 111 ans. Il vivait dans la Manche, à l'EHPAD de Barfleur ces dernières années. Le Manchois était né le 12 mai 1914 à Goubertville, 2 mois et demi avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il a été commerçant à Cherbourg, secrétaire d'une laiterie à Tocqueville et chauffeur de car scolaire. Il était à la retraite depuis 1979. Il aimait, nous dit sa famille, le jardinage, la chasse, la pêche, sans oublier la belote. La personne la plus âgée en France reste à ce jour une femme, Marie-Rose Tessier. Elle a 115 ans. Elle est née le 21 mai 1910 et elle réside au Sable d'Olonne, en Vendée, selon le classement non officiel du site LGCF. Allez, on repart tout de suite à Sochaux, à l'usine Stellantis. Vous n'avez pas du tout 110 ans ni 115 ans, hein, Jérôme Cadet, toujours très en
forme. Non, mais l'usine ici, le site date de 1912. Mmh. Vous voyez que la doyenne des Français a connu ce site de son vivant, même si on est un petit peu loin, des Sables d'Olonne, évidemment. Merci Amélie Perrier, ce 13-14 spécial automobile en direct de Sochaux, dans une minute, juste après la météo.
France Inter présente
le podcast original L'épopée de Lady Liberty.
Un nouveau grand récit de Philippe Collin.
C'est l'histoire d'une idée française devenue le symbole mondial de l'Amérique. La statue de la liberté accompagne l'histoire des États-Unis depuis 140 ans. Un récit très éclairant sur ce que nous traversons aujourd'hui.
Happy birthday, Miss Liberty.
L'épopée de Lady Liberty.
Une série en 10 épisodes, disponible sur l'application Radio France.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Le temps de votre après-midi. Bonjour Sophie Briat.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
La dépression Ingrid est toujours présente sur l'ouest du pays.
Et oui, le Finistère, le Morbihan sont placés par Météo France en vigilance orange pour vent, pluie, inondation, crue et vague submersion. L'Ille-et-Vilaine est en vigilance orange au cru. Ça souffle jusqu'à 100-120 km/h cet après-midi sur les côtes bretonnes et de 60 à 90 km/h le long des côtes atlantiques sous un ciel nuageux accompagné d'averses localement et parfois des coups de tonnerre du Bordelais jusqu'à la Bretagne. Ça souffle aussi dans les terres entre le Cotentin et la Dordogne entre 60 et 90 km/h. Le temps est plus calme, mais le ciel reste quand même nuageux également entre la Seine-Maritime et l'Auvergne, en passant par le bassin parisien. Tandis que des Pyrénées aux plaines toulousaines et l'Aude, le soleil s'installe. Il fait de 9 à 14 sur la moitié ouest du pays, 14 à Biarritz, 11 à Bordeaux et 10 degrés à Brest. Et à l'est, eh bien, nuages et pluie au programme cet après-midi du Nord-Pas-de-Calais à la Corse, avec même des orages près de la Méditerranée. Et attention en fin de journée à la neige qui tombe abondamment sur les deux Savoie et l'Isère qui sont placés en vigilance orange, pluie, neige et verglas. Ça va passer en fait cette limite brutalement de 800 à 1000 mètres à 300-500 mètres. Et il fait plus frais sur le Grand Est, sous un ciel nuageux, mais un temps un peu plus calme, 2 degrés à Strasbourg, 5 degrés à Sochaux, avec de rares averses cet après-midi.
Merci pour cette attention, chère Sophie. Sophie Briat pour le temps.
France Inter, de 13-14, Jérôme Cadet.
Un 13-14 sur le terrain aujourd'hui en direct de l'usine Stellantis de Sochaux. Stellantis, sixième groupe automobile mondial qui regroupe des marques comme Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Opel ou encore Chrysler. Mais ici à Sochaux, on ne produit, et c'est le cas depuis 1912, que des voitures Peugeot. Et nous sommes venus ici pour comprendre les bouleversements que vit l'automobile depuis quelques années, à tel point que beaucoup se demandent ici et ailleurs si elle a encore un avenir en Europe avec le virage de l'électrique, avec la concurrence des constructeurs chinois notamment. Je vous présente nos invités. Xavier Duchemin, bonjour.
Bonjour.
Directeur de Stellantis France, merci de nous accueillir ici.
Merci à vous, bienvenue.
Parce que nous réalisons une émission de radio en direct et vous, en même temps, vous fabriquez des voitures et rien ne s'arrête, ni la radio, ni la production. Et on va faire les deux en même temps et en bonne intelligence. Je salue à nouveau Manuel Gentil, le directeur du site ici de Sochaux. Nous serons rejoints dans quelques minutes par Nathalie Crochevili, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, et par Marie-Émilie Chevier, déléguée syndicale CFDT. Je salue également Maxime Deps. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Journaliste à la rédaction de France Inter, service économie. Vous allez nous présenter deux reportages, Maxime.
Oui, je suis allé pas très loin d'ici en concession pour voir comment se vend aujourd'hui l'électrique. Et puis je suis allé un tout petit peu plus loin, 60 km à Mulhouse, sur un site où on entendra un petit peu l'inquiétude des salariés pour l'avenir.
Un autre site Stellantis dans le Grand Est. Nous étions tout à l'heure à 13h tout près de la ligne de production. On s'en est un peu écarté, Manuel Gentil, pour se rapprocher de la logistique, parce que je voudrais que vous nous parliez de ces drôles de robots-là, carrés, qui sont en train de circuler au sol dans un balai parfaitement millimétré. Ce sont eux, ces robots, qui transportent les pièces.
Exactement. Là, vous êtes au cœur de la révolution qu'on a introduite à Sochaux il y a à peu près 7 ans quand on a fait le projet Sochaux 2022, qui était un projet de rénovation du site.
Et de réduction de sa taille ?
Réduction de sa taille, compactage pour gagner en efficacité et en efficience. Donc on a investi plus de 300 millions d'euros ces 7 dernières années. Et là, vous êtes sur un projet qui a vu le jour à Sochaux, qui est unique. Ce que vous voyez là devant vous, alors les auditeurs ne le voient pas, mais c'est unique au monde. Vous le verrez chez aucun autre constructeur mondial. C'est quelque chose qu'on a conçu et qu'on a mis en place à Sochaux et qu'on est en train de déployer sur l'ensemble des usines Stellantis.
Ces robots, ils prennent les pièces et ils les amènent directement sur la ligne de montage. Comment est-ce qu'ils savent où aller au bon endroit?
Alors, ils sont pilotés par un système automatisé qui connaît l'emplacement de tous les robots à chaque instant sur le parcours et qui, en fonction des pièces qu'il est en train de transporter, sait à quel endroit il doit aller la déposer et à quelle heure surtout, parce qu'il y a... Il y a beaucoup de diversité.
Avant, c'était des salariés, par exemple, avec des Fenwick qui faisaient
c'était
ça ?
C'était des Fenwick qui étaient faits. Et on avait beaucoup de dispersion et d'aléas, ce qui n'est plus le cas maintenant avec cette nouvelle chaîne logistique.
Ouais. Vous avez très peu de stock ici.
On travaille avec moins de 2 jours de stock. Ouais.
Moins de 2 jours exactement. De stock en moyenne. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des aléas ? La semaine dernière, par
on
exemple,
gère.
Il y a 15 jours, oui,
on gère,
mais
on
c'est
gère.
Votre métier. Il y a 2 semaines, la tempête Goretti.
Ouais.
Et je crois que ça vous a occasionné quelques petits aléas.
Oui, alors on ne s'est pas arrêté. Hein. On a réussi à passer outre les problématiques. Donc soit on détourne des flux, soit on se dépanne vers d'autres usines du groupe. C'est aussi la force de Stellantis, c'est qu'il y a d'autres usines qui utilisent les mêmes pièces et potentiellement on peut se dépanner ailleurs.
Il y a des pièces qui sont arrivées en hélicoptère.
Oui, c'est exceptionnel. Mais effectivement,
d'un fournisseur.
Ouais, la semaine dernière, on a eu un fournisseur en difficulté sur un flux lointain chinois où les transconteneurs sont arrivés tard et du coup, on s'est fait dépanner par hélicoptère. Ouais.
Malgré ces investissements considérables, notamment pour faire baisser les coûts de production, l'année 2025 a été difficile. Xavier Duchemin, vous êtes le directeur Stellantis France. Je me tourne vers vous. 5% de baisse pour les immatriculations de voitures neuves l'an dernier dans notre pays, moins 7% pour vous. Et si on regarde par rapport à 2019, c'est moins 47%. C'est colossal.
Effectivement, on a perdu 600 000 voitures par rapport à la période d'avant le Covid. Les 37 000 collaborateurs de Stellantis en France travaillent dur pour trouver des solutions. On s'adapte et je pense qu'à Sochaux, on a un bel exemple d'adaptation où on est capable de produire des voitures de différentes énergies. Et puis, on a aussi un bel exemple de réussite parce que pour répondre à la demande, les équipes vont travailler le samedi ici à Sochaux.
L'année dernière, ça n'a pas été le cas du site de Sochaux, mais certains sites ont vu leur production s'arrêter compte tenu de la baisse des commandes.
Donc en fait, on s'adapte, on est agile, on essaye d'avoir le minimum de stock. Et encore une fois, on a trouvé des solutions, on a relancé des activités commerciales pour faire face à la demande.
Quel est le problème de fond, Xavier Duchemin ? Pourquoi ? Depuis le Covid, finalement, les ventes de voitures en France baissent et baissent autant. On produit, je crois, ici 2 fois moins de véhicules qu'avant le Covid.
C'est effectivement, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a la mutation énergétique dans laquelle on s'est fortement impliqué. On a innové, on a lancé de nombreux modèles électriques pour faire face à la nouvelle donne. Et c'est ça. Et c'est aussi tous les ingénieurs, les designers qui travaillent en permanence pour trouver des solutions.
Ça n'est pas qu'un problème français ou il y a vraiment un sujet sur le marché français en ce moment ?
En fait, c'est plutôt un problème européen. Il y a 3 millions de voitures de moins de vendues par rapport au Covid en Europe. Et comme vous le rappeliez, 600 000 voitures de moins en France.
Dans ce contexte, on s'interroge sur l'avenir de site où on se dit... Pour l'instant, là, début 2026, on va garder la voilure telle qu'elle existe.
On n'a aucune inquiétude. On a un carnet de commandes qui se reconstitue. On a été très performants, en particulier sur le leasing social, qui était une mesure pour inciter les clients à acheter plus d'électrique.
Ça, c'est une des nouveautés. Ça serait bien que vous nous en disiez un mot. Le leasing social, il y a de plus en plus de clients qui passent par ce système-là. Ça veut dire qu'ils sont plus propriétaires de la voiture?
Voilà, donc c'est un très bon dispositif qui a été lancé. Les gens louent la voiture, ne l'achètent pas. Et on a été très contents chez Stellantis parce qu'on a fait 50% des voitures qui étaient allouées. C'est 25 000 voitures sur les 50 000.
Donc la moitié aussi, des voitures voilà. sont plus vendues, les voitures neuves, elles sont louées.
En fait, c'est même plus. Hein. Si vous prenez le marché global, c'est 80% des voitures qui sont louées au lieu d'être achetées.
Pourquoi ça fonctionne mieux que la...
Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une mobilité automobile accessible avec des loyers qui sont relativement faibles par mois. Pour 200, 300 euros, vous pouvez avoir une voiture.
Le coût des véhicules qui sortent d'ici 3008 et 5008?
En fait, on arrive à avoir des mensualités entre 300 et 400 euros.
Et au global, si je veux acheter la voiture?
Si vous voulez acheter la voiture, elle sera aux environs de... Elle commencera à 25 000 euros.
25 000 pour le 3008?
Voilà, et puis ça peut aller beaucoup plus sur des modèles électriques ou haut de gamme.
Alors, merci Xavier Duchemin. On continue d'avancer hein, dans ce site Stellantis de Sochaux, au milieu toujours des pièces. On va s'approcher de la ligne de production. Peugeot ici, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une institution depuis 1912. Il y a eu jusqu'à 40 000 salariés à la fin des années 70, 5 400 aujourd'hui. Il y a donc évidemment des histoires de famille, comme celle d'Emmanuel et Christophe Janin. Mari et femme, plus de 20 ans pour eux chez Peugeot ici. Trois de leurs quatre parents y travaillaient déjà. Voilà comment cela a commencé pour Emmanuel.
Alors je vous avoue que ça n'a pas été automatique. Hein. Le but était quand même de travailler bien à l'école pour avoir un métier un peu plus valorisant. Mais arrivé 18 ans, on fait un petit stage, on gagne de l'argent. Puis quand on commence à gagner de l'argent, bon ben voilà, hein, c'est parti comme ça. Et puis on continue, puis on ne s'arrête plus.
Vous avez commencé sur quel poste ?
J'ai commencé aux amortisseurs où travaillait ma maman pour finir après montage véhicule.
Le même poste que votre maman ?
Oui.
Vous êtes rencontrés ici ?
Oui.
Dans ce site-là ?
On a travaillé, on était collègues avant d'être mari et femme.
Christophe, même chose. Vous êtes dit, j'irais bien travailler chez Peugeot finalement. Est-ce que ça a été une évidence ou bien
Pas spécialement, c'est jamais une évidence de se dire on va travailler à l'usine. Après, il y a plein de métiers différents ici, mais des métiers un petit peu plus prestigieux, on va dire. Mais bon, travailler à l'usine, à la chaîne, comme on disait à l'époque, c'est pas non plus un parcours de vie qu'on souhaite à nos enfants. Donc, après, ça s'est fait naturellement. Les études qui ne fonctionnent pas. Après, voilà, il faut trouver un petit boulot. Et ici, c'était la référence. Tout le monde venait travailler ici. On avait Peugeot. Ça nourrissait toute la région, ça le fait encore. Mais bon, on est quand même moins nombreux qu'avant.
Si vos filles vous disent, bon là elles sont en études, au collège ou au lycée, c'est ça Emmanuel ?
Oui, c'est ça. Oui.
Si elles vous disent dans 4-5 ans, moi j'aimerais bien travailler comme toi à l'usine, qu'est-ce que vous...
Ah mais moi je leur conseille même de venir faire un petit stage ici. Elles se rendront compte un peu qu'on est fatigué le soir et pourquoi, donc ça fera pas de mal. Et puis ben ma foi, si ça leur plaît, nous on a réussi à évoluer. On a des postes maintenant, on n'est plus opérateur, on est team leader, c'est super intéressant. Et si l'usine a encore la chance d'être là dans quelques années, et ben pourquoi pas.
Ça veut dire que dans l'esprit des salariés ici, il y a quand même cette question de se dire est-ce qu'on va encore pouvoir fabriquer des voitures en France dans les prochaines années?
On est inquiets. Tous les salariés sont très très inquiets en ce moment. Avec la conjoncture actuelle, on attend la suite, mais on est tous inquiets, ouais. Effectivement.
Christophe, partagez.
Oui, c'est une des grandes questions avec la concurrence chinoise, avec les véhicules électriques, les normes européennes. Ça met pas mal de bâtons dans les roues à l'industrie française. Donc ici, en tout cas, à Sochaux, on fait tout pour être les meilleurs. On est pas mal. Et pour garder cette usine le plus longtemps possible. Et notre travail. Et faire vivre la région.
Voilà l'espoir de Christophe Emmanuel. Christophe, 2200 euros net par mois pour son salaire. C'est ce qui m'a glissé il y a quelques minutes. Nathalie Crochevili, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être avec nous ici. Vous venez de pas très loin, maître de conférence en sciences économiques à l'UTBM. C'est l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Christophe, qu'on vient d'entendre, le dit, l'empreinte de Peugeot sur le territoire, elle s'est réduite ces dernières années?
Alors elle s'est réduite, ça veut dire qu'il faut déjà parler de l'engagement. C'est-à-dire qu'il y avait des liens extrêmement forts entre Peugeot puis PSA et son territoire. Et effectivement, ce lien c'est peut-être petit à petit érodé. Alors, lien extrêmement fort. On disait, il y avait un dicton populaire ici qui disait que quand Peugeot ou PSA éternue, c'est tout le territoire qui s'enrhume.
Est-ce que c'est toujours vrai ?
Alors, c'est un petit peu moins vrai. Effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu une lente érosion de l'emploi depuis 40 ans, hein, du pic des 39 000 salariés. En 1979, on n'est plus qu'à 5 000. Alors certes, il y a eu de l'externalisation de salariés chez les équipementiers, les sous-traitants, mais il n'empêche qu'on a eu une érosion de l'emploi en quantité, mais aussi en qualité. Pour le dire autrement, il y a eu un volant d'intérimaire qui a assuré la flexibilité face à la conjoncture. Donc il y a eu effectivement cette érosion-là.
Mais l'avenir de Stellantis est toujours évidemment scruté dans la région, et les annonces d'Antonio Filosa, le nouveau patron de Stellantis, qui est venu ici même avant-hier, on fait par exemple la une évidemment du journal L'Est Républicain, c'était hier. On a progressé, Manuel Gentil, on est là le long de la ligne de production. À quel niveau est-ce qu'on se situe là ? Qu'est-ce qu'on fait à l'endroit où nous sommes ? Il y a des véhicules à notre gauche et à notre droite.
Ouais. En fait, on arrive à un endroit crucial du flux, c'est ce qu'on appelle nous le mariage. C'est là où on va venir marier la partie supérieure de la voiture avec toute la chaîne de traction de la voiture, donc le moteur, la chaîne d'échappement pour les véhicules thermiques ou les batteries si vous avez des véhicules électriques.
Donc la caisse se marie avec le châssis.
Exactement.
Si je puis dire, le haut
exactement.
Avec le bas.
On est c'est l'endroit en France où on célèbre le plus de mariages par jour. Hein.
D'accord. Et c'est là que les voitures naissent. C'est à partir de là qu'on peut dire
exactement,
que c'est une voiture.
Exactement, parce que là, la voiture est complète.
Comment est-ce qu'on distingue un véhicule là 100% électrique des autres ? Est-ce que vous savez le faire
Ça se voit surtout en dessous. Alors, je ne peux pas vous le dire parce qu'on n'a pas encore la chaîne de traction. Mais si on va juste après, encore que là, vous pouvez le voir, vous voyez des véhicules avec... Vous voyez le câble jaune, orange qui pend sur le côté. Bon, c'est le câble de rechargement de la batterie. Donc, c'est le signe distinctif d'une voiture qui va être équipée avec une chaîne de propulsion électrique.
Et à côté, la corde jaune, c'est au cas où l'opérateur ait un problème.
Exactement.
Pour revenir là au véhicule électrique qui est là-bas, c'est quoi la part de production électrique dans votre usine ?
Aujourd'hui, on fait... donc, nous, on est flexible. On est capable de faire le mix qui est demandé par le commerce. Actuellement, on fabrique 20% de véhicules qui sont des véhicules purs électriques et 10% de véhicules hybrides rechargeables.
20% d'électrique et 10% d'hybrides rechargeables.
Ouais.
Quel est donc l'essentiel de...
Alors, l'essentiel de la production, c'est les 70% qui restent.
C'est ça.
Ce sont des véhicules hybrides. Donc avec
non
rechargeables, donc avec un moteur thermique et une aide électrique lors de la conduite.
Vous faites toujours du 100% thermique ? Ici.
On fait encore un peu de 100% thermique, notamment pour les pays d'Amérique du Sud et puis du Moyen-Orient.
Et plus de diesel ?
Zéro.
Depuis combien de temps ?
Depuis qu'on a lancé la nouvelle 3008 à Sochaux, donc depuis mai 2024.
Je précise que ça sont les sources de l'International Council on Clean Transportation. Un véhicule hybride classique, c'est 20% d'émissions de CO2 en moins par rapport à un véhicule thermique. Pour un hybride rechargeable, c'est 30% en moins. Mais ces hybrides, c'est encore 3 fois plus de CO2 que les voitures qui sont 100% électriques. Voilà l'enjeu. Mais ces voitures, il faut les vendre. Maxime Debs, on vous retrouve. Vous êtes rendu en concession hier. Tout près d'ici, finalement, vous y êtes même allé à pied.
Oui, et c'est Silvio Alati, le directeur de la concession, juste en face de l'usine qui nous a reçus. Ici, on vend du Stellantis, on vend de tout. Mais est-ce que l'électrique se vend vraiment ?
Je pense que si je vous dis oui, je vous mentirais, clairement. Mais aujourd'hui, en fait, on est dans une période où le consommateur, il est un peu paumé. Électrique, hybride, on ne sait vraiment pas où aller.
Christophe, un client qui passe par là lui a fait son choix. Ce sera une 308 hybride, rien d'autre. L'électrique, très peu pour lui.
C'est vrai que c'est un cap à franchir, mais là c'est plus mental, quoi. C'est plus on s'arrête à la station service, on fait le plan en 2 minutes et puis on repart, c'est autre chose, quoi. Donc là, je suis pas encore prêt pour faire le grand saut, en tout cas. Plus le prix, ça joue aussi le prix, clairement.
5, 10, 15 000 euros de plus, c'est non pour ce particulier. Ce n'est guère mieux du côté des entreprises lorsqu'elles doivent s'équiper en utilitaire. Frédéric Levin loue et vend notamment des fourgonnettes aux professionnels. En première couronne de Sochaux à Aixincourt, vous ne trouverez quasiment aucun véhicule électrique dans son parc.
C'est pas que j'ai pas d'électrique, c'est que moi je réponds à la demande de mon client. Et aujourd'hui, sur notre parc, que ce soit en location ou en vente, on fait moins de 5% de vente d'électricité.
Que ce soit l'appréhension de payer possiblement plus cher au kilomètre, les batteries, leur fiabilité, mise en doute encore par les consommateurs, les freins, qu'ils soient idéologiques ou parfois bien réels, restent nombreux et souvent très concrets pour Rémi Anderlin, qui dirige l'agence automobilière de Montbéliard.
Bah voilà, aujourd'hui, comment que je fais si j'ai une flotte de véhicules électriques, mes quatre techniciens partent sur Pontarlier dans le Haut-Doubs à des températures, on va dire, à moins 5, moins 10 aujourd'hui sur toute la journée. Est-ce que je suis assuré qu'ils vont bien pouvoir revenir sur Montbéliard en fin de journée? Donc, c'est sûr que là, leur véhicule diesel, leur véhicule gasoil, bah, ça les rassure.
Voilà, se rassurer, quitte à aller à contre-courant avec ce paradoxe rapporté à peu près partout où nous sommes allés, la volonté quasi unanime des clients de rouler propre, mais pas à n'importe quel prix.
Merci Maxime Deb. Sur ce constat, je voudrais rajouter celui de Laurent Auxel, délégué syndical central CFE-CGC, premier syndicat du site.
On pense qu'il faut des objectifs d'électrification, mais qui soient corrélés avec l'impact que ça a sur l'industriel et puis les clients, parce que les clients, on voit bien qu'ils achètent 20%. Du parc et tous les pays ne sont pas encore équipés pour faire du véhicule électrique. La France est plutôt bien équipée en borne de charge. Quand on regarde l'Europe, en Italie, en Espagne, etc., c'est pas le cas. Donc dire de façon dogmatique qu'il faut que tous les véhicules à 2035 soient équipés, ça nous paraît dangereux, sachant que les pays ne sont pas encore équipés en borne de charge.
Je précise que l'Union européenne a décidé d'assouplir ce rendez-vous de 2035. Il y a des possibilités de dérogation pour certains véhicules. On ne sera pas au 100% électrique neuf dans 9 ans maintenant. Xavier Duchemin, vous êtes le directeur Stellantis France. Vous avez entendu ce constat. J'ajoute que les ventes d'électriques, elles décollent en Allemagne et pas en France. Comment est-ce qu'on l'explique?
D'abord, elle décolle en France. Ah. Ça progresse bien.
Pas au même rythme,
qu'en Allemagne, mais il y a une voiture sur quatre aujourd'hui qui est en électrique. Et on est très fiers.
Ça s'est accéléré en 2025 ?
Ça s'est accéléré. Ça s'était accéléré en 2024. Et chez Stellantis, on est fiers parce qu'on est leader. On est leader des voitures électriques, en voitures particulières et en voitures utilitaires légères. Mais votre reportage était intéressant parce que ça montre qu'il y a un certain nombre de freins. Donc c'est pour ça qu'on investit beaucoup dans la formation de nos vendeurs, qu'on a développé aussi nos gammes parce qu'il faut avoir des offres différentes. Et effectivement, c'est un sujet. Après, il faut être assez prudent et le reportage le montre très bien sur les véhicules utilitaires légers où la progression est moins forte que sur les voitures particulières.
C'est-à-dire que les entreprises, elles sont frileuses aujourd'hui, elles n'ont pas confiance.
En fait, il y a un certain nombre d'usages peut-être où les véhicules ne répondent pas totalement aux attentes. Et c'est pour ça qu'on souhaite que l'Europe nous écoute sur le sujet et qu'on fasse preuve de pragmatisme au niveau européen sur ces véhicules utilitaires légers.
Mais sur notamment l'autonomie, ce responsable d'entreprise qui dit « moi, je ne peux pas envoyer mes salariés au bout de la Franche-Comté si je ne peux pas les faire revenir ». Il
n'y
a pas de confiance dans l'efficacité de vos batteries.
En fait, le meilleur moyen, c'est d'essayer la voiture. On a, chez Stellantis, on a imposé à tous les collaborateurs de rouler en voiture électrique. Et je peux vous dire, au début, il y a eu un certain nombre de freins. Et aujourd'hui, au moment du renouvellement, les gens veulent rester en électrique. Parce que vous découvrez, en fait, la vie électrique. Vous voyez que c'est pas compliqué de charger. Et puis aussi, sur votre feuille de paie, vous êtes beaucoup moins imposé quand vous avez une voiture électrique. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Il y a de la pédagogie à faire. Et on y travaille ardemment.
Quand vous annoncez 500 km d'autonomie, c'est vraiment 500 km d'autonomie.
C'est européenne.
Oui, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent en disant, mais en fait, c'est un peu moins de 500.
Mais aussi, c'est une nouvelle habitude de conduite. Ouais. Il faut utiliser le frein moteur pour recharger le véhicule, etc. Et encore une fois, il faut l'essayer et je peux vous garantir, vous serez convaincu.
Marie-Émilie Chevier, bonjour.
Bonjour.
Déléguée syndicale CFDT ici sur le site de Stellantis à Sochaux. Merci d'être avec nous. Vous dites que le problème, c'est aussi le prix de ces véhicules électriques.
Tout à fait, ça reste un prix assez important pour nos salariés et ils s'inquiètent aussi énormément sur l'autonomie de ces véhicules et ainsi que sur l'entretien et l'avenir de ces véhicules.
Ça veut dire qu'il y a des salariés ici, peut-être vous en faites partie, qui sont sceptiques sur ces véhicules électriques ?
Un petit peu, oui, il y en a beaucoup, même je trouve, ils s'inquiètent beaucoup sur l'autonomie parce que comme vous disiez tout à l'heure, 500 km d'autonomie, mais il y en a qui s'aperçoivent que ça fait qu'on fait moins avec.
Ça veut dire qu'il y a quelques années, des salariés pouvaient s'acheter les véhicules qu'on voyait autour de nous ?
Le thermique, oui, ils étaient quand même moins chers que nos électriques de maintenant.
Et c'est plus le cas, et c'est plus le cas aujourd'hui ? Est-ce que Xavier Duchemin, de ce point de vue-là, les prix pourraient baisser ?
Alors en fait déjà pour les collaborateurs on a fait beaucoup, hein. On a fait des opérations, on a fait des loyers plutôt que des achats cash et je pense que c'est apprécié tout le monde et on a d'ailleurs en ce moment des opérations où on propose des voitures aux collaborateurs à des bons prix.
Et mais tout le monde ne travaille pas chez Stellantis.
Non mais allez en concession vous verrez en fait on a fait vraiment des efforts sur les derniers mois parce qu'on est conscient que la transition énergétique, ça passe aussi par des offres abordables pour les clients. Et on y a beaucoup travaillé.
Nathalie Crochevili, vous êtes maître de conférence, je le rappelle, en sciences économiques ici à Belfort-Montbéliard. L'arrivée de l'électrique, elle est annoncée depuis longtemps. C'est 2022 pour la décision du 100% électrique pour les voitures neuves en 2035. Est-ce que les constructeurs européens ont pris la mesure de ce changement, selon vous ?
Alors, ça a été annoncé dans le pacte vert. Les mesures étaient connues. Le pacte vert, c'est 2019. Donc, 2035, il y a quand même plus de 15 ans pour se mettre en marche. Ceci dit, effectivement, il y a un retard des constructeurs européens en général par rapport aux constructeurs chinois sur l'électrique. Et d'ailleurs, ce report qui a été demandé par les constructeurs européens, emmené par les Allemands, c'est peut-être une victoire à la Pyrrhus. Parce que effectivement, ça risque d'augmenter le retard qui a été pris par les constructeurs européens. Parce que effectivement, il y a des ressources qui seront allouées à l'optimisation de l'existant, du thermique ou de l'hybride, et peut-être pas sur les véhicules électriques.
Comment expliquer que les Chinois soient allés aussi vite sur l'électrique ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est qu'ils apprennent très vite. Il y a eu des transferts de technologies massifs des constructeurs du monde entier, d'ailleurs, vers la Chine dans les années 2000 à 2010. Et ensuite, eux, ils n'avaient pas d'industrie automobile préexistante. Et donc, ils sont passés directement, pas tout à fait, mais à l'électrique. Et donc, du coup, ils investissent massivement sur l'électrique.
Ça veut dire que partir de rien, Xavier Duchemin, c'est plus simple, si je puis dire, que pour vous, qui avez été obligé de réaliser une transition ?
Oui, mais on s'est adapté très, très rapidement. Et comme je disais, on est leader sur le marché européen. On le voit aussi sur le marché français. Les marques chinoises, c'est sans doute le marché où les marques chinoises progressent le moins.
Vous voulez ajouter quelque chose, Xavier Duchemin ? Je voudrais qu'on quitte temporairement ce site de Sochaux pour aller pas très loin d'ici. C'est à Mulhouse, Maxime Debs, dans l'Alsace, qui vous est cher. Vous vous y êtes rendu ces derniers jours. 4000 salariés au total sur le site de Mulhouse. Là-bas sont produites notamment les Peugeot 308. Et les salariés se demandent si ce véhicule aura un successeur.
Oui, alors ici, chez Stellantis, on nous dit qu'un nouveau modèle, il y aura. Très bien. Mais alors quand, pour quel volume ? Ronald Laventin est le délégué CFDT sur le site de Mulhouse.
Auparavant, on avait un véhicule qui s'arrêtait. Le suivant, il arrivait presque le lendemain. Et on démarrait l'ancien, le nouveau, dans le mois, quoi. Aujourd'hui, il y a eu un trou à cause du virage de l'électrique. Aujourd'hui, on est dans cette attente.
À Mulhouse, annoncer la remplaçante de la 308 actuelle permettrait d'apaiser un peu tout le monde, estime aussi Laurent Gotera de la CFE-CGC, qui entend les questions qui reviennent sans cesse dans les couloirs.
La personne que vous croisez elle dit « Alors, c'est pour quand l'annonce ? Est-ce qu'on en aura une annonce cette année ?» Donc c'est dans l'esprit des gens, c'est très fortement ancré.
Voilà, vous l'aurez compris, ce qui inquiète ici, c'est le manque, disent les syndicats, de perspectives. Et ce, on peut le dire à peu près à tous les niveaux.
Il y a des gens qui ont un certain âge, on a 47-48 ans de moyenne d'âge, donc le site vieillit.
Voilà, à Mulhouse, on a entendu la promesse faite cette semaine de 1400 postes pour la France cette année. Et forcément, évidemment, ici sur le site mulhousien, on espère y être associé.
C'est vrai qu'à un moment donné, toute organisation syndicale confondue, on est tous en train de dire qu'il faut embaucher maintenant des jeunes pour pouvoir pérenniser et puis pour avoir une certaine continuité. Parce que ça fait quand même plusieurs années où il y avait un filet d'embauche, hein, parce qu'on n'est de loin pas. Il n'y a pas autant d'embauche que de départ, hein, largement pas. Et donc du coup, il faut maintenant inverser la tendance, parce que sinon, les anciens partiront et il n'y aura plus de relève d'air.
Un appel d'autant plus pressant des syndicats que très récemment, les 400 intérimaires qui travaillent sur le site régulièrement ont appris que leur mission ne serait bientôt plus reconduite.
Merci Maxime Debs. Xavier Duchemin, une réaction ? Est-ce qu'on va essayer d'avancer un petit peu encore le long de cette ligne de... Ah, c'est de l'autre côté. Donc voilà, je ne connais pas l'usine évidemment, donc je vais dans le mauvais sens. C'est par là, Xavier Duchemin, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Inquiétude de ces salariés du site de Mulhouse de dire mais qu'est-ce qui va venir après ce véhicule 308 ?
Alors déjà, 308, c'est une belle histoire. On vient de restyler la 308. On a une grosse mobilisation pour la vendre en France et bien sûr en Europe. Et on est confiant et on souhaite vraiment maintenir toutes les unités de production en France.
Mais aujourd'hui, rien n'est acté sur la suite.
Il y a bien sûr des plans, mais aujourd'hui on est très tôt puisqu'on vient juste de lancer la mi-vie de la 308. Hein.
Le nouveau PDG de Stellantis, Antonio Filosa, était ici avant-hier. Il annonce 1400 recrutements. Il y aura aussi des départs volontaires cette année entre 1500 et 2000. Ça veut dire quand même, vous avez quelle perspective sur l'année 2026?
Alors déjà, je pense que c'est très important que Antonio Filosa, le nouveau patron de Stellantis, soit venu à Sochaux. C'est un symbole, c'est une usine particulièrement importante et la France est très importante dans le dispositif de Stellantis. Et je pense que la visite qui a été bien appréciée par les collaborateurs était importante à ce point de vue.
Pour vous l'interrogation de 2035 et ce qui va se passer autour de la réglementation européenne. On a mis l'objectif de 100% de véhicules électriques en 2035 sur pause. Ça, c'est une décision qui a été officialisée par la Commission au mois de décembre. On attend de nouveaux arbitrages pour la fin du mois de janvier. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, Xavier Duchemin? On parle notamment de l'introduction de ce qu'on appelle le contenu local, c'est-à-dire qu'il y ait une part, 60, 70%, 80% des pièces des voitures qui soient produites en Europe et ça, que ce soit obligatoire. Est-ce que c'est une piste que vous soutenez?
Complètement, il y a 85% des voitures de Stellantis vendues en Europe qui sont fabriquées en Europe. Et c'est bien sûr le contenu local européen est particulièrement important. Et sur la législation européenne, ce dont on a besoin, c'est de la visibilité et très vite pour qu'on puisse investir sur nos unités de production en France en particulier.
Mais ça veut dire que, par exemple, les constructeurs chinois auraient l'obligation d'avoir 80% de contenu local si cette décision est prise?
Ce serait effectivement une bonne mesure.
Nathalie Crochevili, mettre un contenu local obligatoire dans des véhicules, comme c'est envisagé aujourd'hui, est-ce que ça vous semble être une bonne stratégie?
Alors, si on met du contenu local, eh bien, ça va favoriser le déploiement d'une filière, de filières notamment de batteries en particulier, sur le territoire européen. Et du coup, dans une période troublée où les règles commerciales sont en train de voler en éclats au niveau mondial, eh bien, il y a des enjeux de souveraineté. Donc si on veut recouvrer une partie de sa souveraineté, imposer un quota local peut être une piste. Alors évidemment, ça risque dans un premier temps d'être plus coûteux. Mais quand on augmentera les volumes, normalement, ça devrait faire baisser les prix.
Mais ça veut dire qu'au moins au départ, fabriquer 80% des pièces d'une voiture en Europe, ça veut dire qu'elle sera encore plus chère.
Elle sera plus chère et puis surtout, il faut sourcer, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de composants, de matières qui ne sont pas présentes en Europe. Donc, il y aura quand même des enjeux pour sécuriser les filières d'approvisionnement qui ne seront pas que européennes.
Marie-Émilie Chevier, vous qui êtes déléguée syndicale CFDT, est-ce que c'est une piste auquel votre syndicat réfléchit et quelle est votre position de ce point de vue-là? Est-ce qu'il faut continuer à aller aussi vite vers l'électrique et comment est-ce qu'on peut protéger finalement la production ici qui est faite à Sochaux?
Aller aussi vite, je ne sais pas, il faut prendre quand même le temps afin qu'on fasse des voitures comme nous le faisons actuellement, hein, des belles voitures. Uh-huh. Après.
Oui, il n'y a pas forcément. Oui, il y a aussi du doute et de l'interrogation
c'est
de
ça.
Ce point de vue-là.
C'est ça, beaucoup de salariés se posent des questions sur les volumes à venir.
Xavier Duchemin, sur le contenu local, aujourd'hui, quel est-il dans une voiture 3008, 5008 fabriqués autour de nous en ce moment, ça serait un énorme défi de passer à 80% par exemple pour un groupe comme Stellantis?
Oui, mais on a déjà une très forte intégration locale. On a tout un tissu d'ailleurs dans la région qui est directement impliqué avec l'usine. On a 12 usines en France et chaque usine rayonne sur sa région. Donc on a des taux d'intégration qui sont parfois au-delà de 70%.
Sur certains modèles, mais en moyenne, vous savez.
En moyenne, je pense qu'on est à au moins 60%.
Hein. D'accord, donc il faudrait encore, encore franchir le cap et revenir. Manuel Gentil, vous êtes le directeur du site ici à Sochaux. Les règles que fixe l'Union européenne, elles ont un impact réel pour vous parce qu'il faut régulièrement modifier les véhicules. Je crois qu'il y a des prochaines modifications qui arrivent au mois de mars.
Alors, la réglementation européenne, on s'y adapte forcément, hein, puisque
tous les constructeurs le font.
Exactement, tous les constructeurs qui fabriquent des voitures, qui pour l'Europe en tout cas s'y adaptent. Le dernier exemple en date, c'est ce qu'on citait, c'est la caméra qu'on rajoute dans les voitures pour alerter le conducteur sur la vigilance ou sur la perte de vigilance en tout cas. On le traitait aujourd'hui de manière moins directe avec par exemple le volant. Hein, on détectait une absence de présence des mains sur le volant, oui, ou des changements de direction. Ouais, on est ça. Capable déjà de
le
détecter.
Le volant qui se remet automatiquement quand on
Exactement.
S'assoupit.
Et aujourd'hui, la réglementation impose désormais d'avoir une caméra qui va faire une reconnaissance faciale et qui va regarder si vous fermez les paupières, si votre regard est sur la route, s'il n'est pas sur la route, etc., etc. Ça a un coût forcément qui va renchérir le coût de la voiture.
Donc là, vous avez déjà dit aux fournisseurs que vous avez besoin de caméras 1000 par jour à partir du mois de mars.
Exactement, exactement. Pour toutes les voitures qui seront vendues en Europe. Je ne mettrai pas cette caméra sur les voitures.
Non, pour celles que vous vendez en Amérique du Sud, il y en a ici, mais en tout cas pour celles qui sont vendues en Europe, oui. Donc ça vous demande de vous adapter évidemment à tout cela. Ça veut dire que le véhicule sera plus cher
bien
à la
sûr,
fin.
Bien sûr. Ouais.
Quelques dizaines d'euros de plus. Pas de centaines.
Plusieurs dizaines d'euros.
Plusieurs, ouais.
On ne sera pas très loin de la centaine.
D'accord, on ne sera pas très loin de la centaine, ouais. D'accord. Donc c'est contrainte, c'est plus de sécurité, mais c'est un véhicule plus cher.
Exactement.
Il faut savoir ce qu'on veut et on a le droit de choisir. Alors ces véhicules là qui sont fabriqués autour de nous, ici sur ce site Stellantis de Sochaux, quels seront-ils demain ? À quoi vont-ils ressembler pour les marques françaises du groupe ? Ces modèles sont imaginés, dessinés au centre de design de Vélizy. Près de Paris, l'équipe du design Peugeot compte 120 personnes, 14 nationalités représentées. L'homme qui dirige cette équipe, mais aussi toutes les équipes design de Stellantis dans le monde, c'est Gilles Vidal, star du design automobile qui a longtemps travaillé pour Peugeot avant de partir chez le concurrent Renault et de revenir chez Stellantis l'an dernier. Comment travaille-t-il ? Qu'apportent les nouvelles technologies ? Il nous a reçus hier.
Bonjour.
Bonjour Jérôme Cadet, France Inter.
Gilles Vidal, enchanté.
Merci de nous recevoir.
Bonjour. Le monde est en train de vivre ses plus grandes révolutions en ce moment. L'accélération de la concurrence des marques chinoises, par exemple, ou des nouvelles marques du genre Tesla, donc des marques qui viennent de la tech, disons, et qui n'ont pas forcément d'expérience automobile. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est aussi fort que l'invention de la roue à l'époque ou que l'ère industrielle. L'enjeu, c'est de sortir du lot d'un champ de concurrence qui, par ailleurs, est très bon. Il faut le reconnaître. Nous, on a 4, 5, 6 designers en compétition, en quelque sorte. C'est un peu comme la nouvelle star. On a besoin de plein de propositions différentes pour trouver la bonne solution pour un nouveau véhicule. On va commencer à les faire toutes en 3D. Après peut-être 3-4 semaines de croquis, là, on va voir lesquelles de ces thématiques résistent à cette moulinette, quelque part. Et puis, le jour où on dit, bah tiens, c'est celle-ci. Voilà, on n'a plus qu'une voiture. Derrière tout ça, il y a des centaines d'ingénieurs qui font de la faisabilité à tous les niveaux. Il y a les masques immersifs, donc des masques de réalité virtuelle, et puis on a même de la réalité augmentée qui filme l'environnement. Donc ça, c'est magique pour nous, parce qu'on peut comparer instantanément un modèle numérique 3D d'une voiture qui n'existe pas à des vraies voitures physiques qui existent.
Bon. Donc on met le masque et c'est comme si on était dans la voiture qu'on a dessinée, en fait, c'est un
Alors,
peu ça l'idée.
On peut observer l'extérieur d'une voiture.
L'extérieur.
Et on peut être aussi dans le cockpit et dans l'habitacle. Donc on voit si l'ergonomie fonctionne, si est-ce que l'écran tactile est trop loin, trop près, est-ce que les aérateurs sont au bon endroit, etc. etc. Et le gain de temps, c'est un enjeu. Quand on se préoccupe de l'arrivée de nos concurrents chinois, par exemple, en Europe, ce qui est intéressant avec des marques neuves et récentes sorties de nulle part, si je puis dire, c'est qu'ils n'ont pas l'historique, et c'est une force d'une certaine manière. Ils n'ont pas de passif, quelque part. Mais en revanche, ils sont ultra rapides dans plein de moments. Après, les outils d'intelligence artificielle, ça c'est un sujet fascinant, passionnant, qui fait peur, mais qui ne nous inquiète pas, nous, au design. Et on s'aperçoit que ça ne remplacera jamais l'intelligence créative humaine. C'est rassurant, déjà.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Quand on demande à une IA, par exemple, de créer une voiture du futur qui serait une Peugeot, l'IA va aller chercher tout ce qui est le plus futuriste possible et qui s'appelle Peugeot sur Internet, faire une compilation de tout ça et proposer quelque chose. Mais finalement, ça a été créé déjà par des humains il y a longtemps. Donc c'est déjà vu. Donc c'est un outil d'accélération fantastique. Mais finalement, dans nos métiers, on voit vite les limites. L'IA n'est pas prête à faire des voitures toute seule.
Voilà, entretien avec Gilles Vidal. Nous mettrons la version longue en ligne. Vous le retrouverez sur le site de France Inter. On a continué d'avancer le long de la ligne de production. Manuel Gentil, là, ça y est, les voitures sont finies. Elles roulent.
C'est fini, on démarre les voitures au rythme de une toutes les minutes.
Une toutes les minutes. Ça a mis 3 heures pour fabriquer un modèle.
Sur le flux de montage, ouais.
Et ensuite, vous allez les tester, étanchéiter et voir comment ça se passe à 110, 130 km/h. Peugeot, ce sont des voitures, ce sont aussi et toujours des vélos. On voulait terminer ce 13-14 sur le terrain par notre clin d'œil traditionnel. Une initiative locale, elle concerne les deux roues. L'association Vélocité ici organise chaque année un challenge pour encourager les salariés à aller travailler à vélo. Stellantis y participe, Odile Joannès et sa présidente.
Vélocité organise depuis 10 ans un challenge qui s'appelle « Je vais au boulot à vélo » qui s'adresse à toutes les entreprises et administrations du pays de Montbéliard. Il suffit pour ça que les employés s'engagent à aller au boulot à vélo pendant 3 semaines, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. À la fin de ces 3 semaines, un trophée est remis à l'entreprise lauréate. Ça passe par la sonnette d'or, le dérailleur d'or, le rayon d'or, le guidon d'or. Le premier prix consiste en un vélo à assistance électrique qui a été élaboré par un jeune étudiant de l'UTBM à Belfort. Et le deuxième et treizième prix, ce sont des vélos dits musculaires, des vélos qui ont été reconditionnés par une association locale, la Recyclerie des Forges.
Aujourd'hui, il fait beau à Sochaux, donc c'est l'idéal. Merci de nous avoir suivis ici en direct de Sochaux dans ce 13-14. Merci Manuel Gentil de nous avoir ouvert les portes en pleine production. Je le rappelle, merci à l'équipe de France Inter, l'équipe technique, Guillaume Rialan, chargé de production, Sandrine Malon, Gilles Gallinaro ici, Fabrice Desmaz, Philippe Duclos à Paris, rédaction en chef, Cécilia Arbona, préparation, Camille Poux-Jalaguier.